Chapitre 46. Depuis la mort de Nakata, Oshino n'avait plus quitté l'appartement. La pierre était toujours là, il ne savait pas ce qui allait se passer, ni quand, mais il fallait qu'il reste près d'elle pour réagir le plus rapidement possible lorsque le moment se présenterait. Sa responsabilité était engagée. Il se sentait l'héritier de la mission de Nakata. Dans la chambre où reposait le corps, il avait réglé l'air conditionné sur la température la plus basse, ouvert la soufflerie au maximum et vérifié que les fenêtres étaient bien fermées.
« Hé, papy, tu n'as pas trop froid ?»
demanda-t-il au cadavre, qui, naturellement, n'exprima pas la moindre remarque sur le sujet. L'air de la pièce avait une densité particulière qui, de toute évidence, provenait de la présence du cadavre. Oshino, assis dans le canapé du salon, laissait passer le temps sans rien faire. Il n'avait envie ni de lire, ni d'écouter de la musique. Même quand l'obscurité du soir avait commencé à envahir la pièce, il n'avait pas fait mine de se lever pour allumer la lumière. Il se sentait vidé de ses forces, et maintenant qu'il était assis au fond de ce canapé, il n'avait plus le courage d'en bouger. Les heures se succédaient au ralenti. Tellement au ralenti, qu'Oshino se demandait parfois si le temps n'était pas reparti en arrière, à son insu. La mort de son grand-père avait été un coup dur pour lui. Mais pas à ce point-là. Son grand-père était malade depuis longtemps, et Oshino s'était attendu qu'il meure. Quand cela s'était produit, il y était préparé dans une certaine mesure. Or, pour Oshino, le fait d'être préparé aux événements est très important. Mais ce n'était pas tout. Il y avait quelque chose dans la mort de Nakata qui suscitait en lui une profonde réflexion. Il finit par avoir vaguement faim et se rendit à la cuisine. Il décongela une portion de riz cantonais, en mangea la moitié en buvant de la bière. Quand il eut terminé, il retourna dans la chambre jeter un coup d'œil au cadavre. Nakata était toujours mort. La pièce était aussi glaciale que l'intérieur d'un congélateur. Il aurait pu y entreposer des glaces sans qu'elles fondent. C'était la première fois qu'Oshino passait la nuit sous le même toit qu'un mort, et cette perspective le rendait un peu nerveux. Il n'avait pas peur, non. Il ne trouvait pas cela particulièrement lugubre ou quoi que ce soit. Il n'était tout simplement pas habitué à leur compagnie. Le temps s'écoulait différemment pour les vivants et les morts, et cela le mettait mal à l'aise.
« Je n'y peux rien, de toute façon, » finit-il par conclure. « Nakata est dans le monde des morts, et moi, je suis dans celui des vivants. On est en décalage. »
Il se laissa glisser du canapé et s'assit par terre à côté de la pierre. Puis il en effleura la surface comme on caresse le dos d'un chat.
« Tu pourrais me dire ce qu'il faut faire, toi ?» demanda-t-il à la pierre. « Je voudrais bien remettre le corps de Nakata entre les mains de gens compétents. Mais si tu ne m'aides pas un peu, je n'y arriverai pas. Je suis bien embêté. Si tu as la moindre idée de ce que je dois faire, je t'en prie, fais-m'en part. »
Il n'y eut pas de réponse.
Ce n'était qu'une pierre. Oshino en avait bien conscience. Il aurait beau l'interroger, il n'espérait pas obtenir la moindre réponse.
Il resta pourtant assis près d'elle et continua à la caresser. Il lui posa quelques questions, lui exposa la situation avec des arguments rationnels. Sollicita même sa compassion. Tout cela en pure perte, il en était convaincu. Mais il ne savait pas quoi faire d'autre. Et puis, n'était-ce pas ainsi que Nakata s'était comporté avec la pierre ?
« Je suis en train de demander à une pierre d'avoir pitié de moi, » se dit-il. « Plutôt pathétique, non ? D'autant plus si l'on songe au sens de l'expression « avoir un cœur de pierre ».
Il se leva dans l'intention de regarder à nouveau les informations, y renonça, se rassit auprès de la pierre. Il lui semblait que le silence était chose importante. « Il faut que j'attende en tendant l'oreille.
Mais attendre, ce n'est pas mon fort. D'ailleurs, ça m'a plutôt apporté des ennuis d'être impatient. En agissant sans réfléchir et dans la précipitation, je n'ai connu que des échecs. Mon grand-père me disait que j'étais aussi incapable de tenir en place qu'un chat à la saison des amours. « Un peu de patience, mon gars, un peu de patience !» se répétait le jeune homme.
Aucun bruit ne lui parvenait, à part le ronflement de l'air conditionné dans la chambre voisine. 9 heures arrivèrent, puis 10 heures, sans qu'il se passe rien. Le temps s'écoulait et la nuit avançait. Le jeune homme alla prendre une couette dans la chambre et s'allongea sur le canapé. Il éteignit la lumière, ferma les yeux.
« Hé, Lapierre, je vais piquer un petit roupillon, ok ? On reprendra notre discussion demain matin. J'ai eu une longue journée aujourd'hui. J'ai sommeil maintenant. »«
Ouais, »
se répéta-t-il intérieurement. « J'ai eu une longue journée. » Il s'est vraiment passé beaucoup de choses en l'espace de 24 heures.
« Hé, hey, papy !»
fit le jeune homme d'une voix assez forte pour être entendu de l'autre côté de la porte.
« Hé, Nakata ! Tu m'entends ?»
Oshino soupira, ferma à nouveau les yeux, arrangea son oreiller et s'endormit. Il dormit sans interruption d'un sommeil sans rêve jusqu'au lendemain matin. Dans la chambre voisine, Nakata, endormi d'un sommeil de pierre, n'avait sans doute pas dû rêver non plus. Oshino se réveilla à 7 heures et alla aussitôt vérifier l'état du cadavre. L'air conditionné ronflait toujours et soufflait un air glacé dans la chambre. Et Nakata était toujours mort. Il le paraissait davantage encore que la veille. Sa peau était blafarde, ses yeux semblaient solennellement fermés. Il était désormais bien improbable qu'il revienne à la vie et se relève en disant
« Excusez-moi, monsieur Oshino. Nakata s'était simplement endormi. Je vous demande bien pardon. Tranquillisez-vous et laissez-moi me charger du reste. »
Non, Nakata ne s'occuperait plus de la pierre désormais. Il était mort. C'était un fait indéniable et avéré. Tremblant de froid, Oshino referma la porte. Il se rendit à la cuisine, prépara du café, en but 2 tasses, avala quelques toasts avec du beurre et de la confiture, puis regarda par la fenêtre. Les nuages avaient disparu pendant la nuit, laissant place à un ciel bleu estival. La pierre était à sa place près du canapé. Elle n'avait pas dormi et ne s'était pas réveillée. Elle était simplement restée posée là toute la nuit. Oshino essaya de la soulever et y parvint sans difficulté.
« Hé, c'est moi !»
fit le jeune homme d'une voix enjouée.
« Tu te souviens de moi, ton vieux pote Oshino ? On va de nouveau passer la journée ensemble, on dirait. »
La pierre resta silencieuse, comme toujours.
« Bon, peu importe, on va avoir tout le temps de faire connaissance. »
Il s'assit à côté d'elle et se mit à en caresser la surface de la main droite, tout en se demandant de quoi il pourrait bien lui parler. Ce n'était pas facile de trouver des sujets de conversation. Après tout, c'était la première fois de sa vie qu'il parlait à une pierre. Autant éviter les sujets compliqués à une heure aussi matinale. La journée promettait d'être longue. Il n'avait qu'à lui parler de ce qui lui passait par la tête, pour commencer. Après avoir réfléchi un moment, il engagea la conversation sur les femmes et parla à la pierre de toutes les filles avec qui il avait eu des relations sexuelles jusqu'à maintenant. S'il se limitait à celles dont il se rappelait les noms, il n'y en avait pas tant que ça. Il compta sur ses doigts. 6. Évidemment, s'il ajoutait celles dont il ne connaissait pas le prénom, cela ferait beaucoup plus.
À la réflexion, ça paraît un peu absurde de parler à une pierre des filles avec qui j'ai couché, commença-t-il. Et il se peut que tu n'aies pas envie d'entendre ce genre de confession dès le matin. À part ça, je ne vois pas bien ce que je pourrais te raconter. Et puis, peut-être qu'un peu de légèreté te fera du bien. Disons que c'est pour ta culture personnelle.
Oshino fouilla dans ses souvenirs et raconta quelques-unes de ses rencontres avec autant de détails concrets que possible. Pour la première, il était encore au lycée. Il fréquentait une bande de motards et faisait un tas de bêtises. La fille avait 3 ans de plus que lui et travaillait dans un petit bar à Gifu. Cela n'avait pas duré longtemps, mais ils étaient restés tout de même un moment ensemble. Et puis la fille s'était mise à prendre leur relation un peu trop au sérieux, déclarant qu'entre eux c'était à la vie, à la mort, etc. Elle avait même téléphoné aux parents d'Oshino, qui avaient fait la morale à leur fils. Comme il terminait ses études, il avait tout laissé tomber et s'était engagé dans les forces d'autodéfense. Il avait aussitôt été envoyé dans une base militaire de la préfecture de Yamanashi, et cela avait marqué la fin de l'histoire avec cette fille. Il ne l'avait jamais revue.
« Ma devise favorite dans la vie, c'est « éviter les ennuis », expliqua-t-il à la pierre. « Dès que ça devient compliqué, je prends la tangente. Et c'est pas pour me vanter, mais je cours vite. C'est pourquoi je ne suis jamais vraiment allé au bout des choses. Ça doit être ça, mon problème. »
Il avait rencontré sa deuxième petite amie non loin de la base de Yamanashi. Un jour, alors qu'il était en congé, il l'avait croisée en panne sur le bas-côté et l'avait aidée à changer les pneus de sa Suzuki Alto. C'est ainsi que tout avait commencé. Elle avait un an de plus que lui et étudiait dans une école d'infirmière.
« Elle était vraiment gentille, cette fille, » dit-il à la pierre. « De gros seins. Et elle avait bon cœur. Et puis, elle aimait ça, je te le dis. Moi, j'avais à peine 19 ans et on passait notre temps au lit tous les deux. Mais elle était d'une jalousie incroyable. Et dès que je passais un jour de congé sans elle, j'avais droit à un interrogatoire en règle. Où tu étais? Qu'est-ce que tu as fait? Avec qui? Et tout le tralala. J'avais beau lui répondre honnêtement, elle ne me croyait pas. Finalement, c'est à cause de ça qu'on s'est séparés, après être restés ensemble à peu près un an. Je ne sais pas comment ça se passe pour toi, la pierre, mais moi, je n'aime pas qu'on me pose trop de questions. J'ai l'impression d'étouffer, et ça me déprime. Alors, je me suis tiré. Ce qui est bien quand on est dans les forces d'autodéfense, c'est qu'on peut se planquer à la base en attendant que les choses se calment. La fille ne peut pas aller te chercher là-bas. Moi, je dis, si on veut se séparer d'une fille, le meilleur moyen, c'est de s'engager dans l'armée. Rappelle-toi bien ça, la pierre. Enfin, c'était quand même pénible de passer mon temps à creuser des tranchées et à empiler des sacs de sable.
Plus il parlait, plus Oshino se rendait compte qu'il n'avait fait que des choses minables dans sa vie. Parmi les 6 petites amies qu'il avait eues, 4 au moins étaient des filles vraiment bien. Les 2 restantes lui semblaient, objectivement, des filles à problème. Elles s'étaient montrées plutôt gentilles avec lui. Ce n'étaient pas des beautés à tomber à la renverse, mais chacune était mignonne à sa façon et il pouvait leur faire l'amour quand il en avait envie. Elle ne protestait jamais, même quand, par paresse, il négligeait un peu les préliminaires. Elle lui faisait la cuisine les jours de congé, lui offrait des cadeaux pour son anniversaire. Lorsqu'il était fauché et que sa paye mettait trop longtemps à arriver, elle lui prêtait de l'argent. Il ne se rappelait pas les avoir remboursés, et elle n'exigeait rien en retour. Lui, en dépit de tout cela, ne leur en avait pas été le moins du monde reconnaissant, considérant que tout ce qu'elle faisait pour lui était normal. Quand il était avec une fille, il ne couchait qu'avec elle. Il ne la trompait jamais. Sur ce plan-là, au moins, il était honnête. Mais si elle commençait à se plaindre, à vouloir avoir le dernier mot dans une discussion, à être jalouse, à lui conseiller de faire des économies, à devenir hystérique quand elle avait ses règles, ou à exprimer la plus petite inquiétude à propos de leur avenir, aussitôt, c'était « Ciao, bye bye !» Il pensait que la chose la plus importante dans une relation avec une fille était d'éviter les complications. Si bien qu'à la moindre difficulté, il prenait aussitôt ses jambes à son cou. Ensuite, il en trouvait une autre et recommençait exactement la même chose. Il était persuadé que la majorité des gens se comportaient ainsi.
« Mais tu vois, » dit-il à la pierre, « si j'étais une fille et que je sorte avec un type aussi égoïste que moi, je lui en voudrais vraiment. C'est ce que je pense maintenant. Je suis étonné qu'elles aient été aussi patientes avec moi. J'ai du mal à comprendre. »
Il alluma une cigarette et caressa la pierre d'une main tout en soufflant doucement une bouffée de fumée.
« C'est vrai, quoi. Comme tu vois, je ne suis pas particulièrement beau et je ne suis pas spécialement un bon coup non plus. Je n'ai pas d'argent, j'ai mauvais caractère, je ne suis pas très intelligent. Pas vraiment le prince charmant, quoi. Un fils de paysan pauvre de Gifu, ancien soldat dans les forces d'autodéfense devenu chauffeur routier. Mais quand j'y pense, j'ai plutôt eu de la chance avec les femmes. Ce n'est pas que j'ai un succès faramineux, mais enfin, elles ne m'ont jamais causé de problème. Elles m'ont généreusement offert leur corps, m'ont nourri, prêté de l'argent.
Mais tu vois la pierre. Je me dis que toutes les bonnes choses ont une fin. Comme si quelqu'un me disait
« Hé, Oshino, maintenant faudrait voir à passer à la caisse !»
Le jeune homme continua à entretenir la pierre de ses aventures féminines tout en la caressant. Maintenant qu'il était habitué à ce contact, il avait du mal à ôter sa main de cette surface minérale. À midi, il entendit sonner la cloche d'une école voisine. Il alla à la cuisine, se prépara une soupe de nouilles. Il coupa des oignons en petites lamelles, ajouta un œuf dans le bouillon. Après le déjeuner, il écouta à nouveau le trio à l'archiduc.
« Hé, la pierre !»
s'exclama-t-il quand le premier mouvement fut achevé.
« Pas mal comme musique, non ? Tu ne trouves pas que ça élargit l'esprit d'écouter ça ?»
La pierre se taisait. Oshino ne savait pas si elle écoutait ou non la musique. Mais il continuait à lui parler sans s'en soucier.
« Comme je te l'ai raconté, j'ai fait des choses assez moches jusqu'à présent. J'ai vécu comme un égoïste. C'est trop tard pour effacer le passé. Mais quand j'écoute cette musique, j'ai l'impression d'entendre Beethoven s'adresser directement à moi.
« Hé, mon petit Oshino, ce qui est fait est fait. Tu n'y peux rien, pas vrai ? Moi non plus, je ne me suis pas toujours bien conduit. C'est la vie qui veut ça, mon petit. On n'y peut rien. Il faut continuer à essayer de faire mieux, c'est tout. »
Évidemment, en réalité, avec le caractère de cochon qu'il avait, Beethoven, il est peu probable qu'il ait tenu ce genre de propos. Mais quand j'écoute sa musique, j'entends quelque chose comme ça. Pas toi ?
La pierre se taisait toujours.
« Bon, enfin bref, » dit Oshino, « c'est juste un avis personnel. Je ferais mieux de me taire et d'écouter la musique en silence. »
À 2 heures, il regarda par la fenêtre et aperçut un gros chat noir, installé sur la rambarde du balcon, qui regardait à l'intérieur de la pièce. Par ennui, Oshino lui adressa la parole.
« Hé, le matou, belle journée, non ?»«
En effet, monsieur Oshino, » répondit le chat.
« Alors là, je suis scié, »
dit le jeune homme en secouant la tête.